Radio Django, la rose des vents.
18h25, vous êtes sur Radio Django et c'est l'heure de la Rose des Vents. Mamadi, rédacteur à Voix d'Exil, nous a rejoint. Bonsoir Mamadi.
Bonsoir Fabien.
Tu vas nous parler ce soir de l'association La Marmite.
Tout à fait Fabien. L'association La Marmite s'est définie elle-même, comme je cite, une université populaire nomade de la culture et un mouvement artistique, culturel et citoyen. La Marmite a été créée en 2016 à Genève et connaît depuis un succès grandissant en Suisse romande.
Et alors, on m'a dit, quelle est l'originalité de cette association ?
En fait, chaque année, plusieurs thèmes sont proposés à des groupes composés notamment de jeunes en classe d'accueil, de membres de l'association des familles du Quart-Monde ou des seniors. Ces groupes sont formés pour réfléchir à ces thématiques avec la participation de différents intervenants culturels.
Et alors ce soir, tu nous proposes, Amadi, de découvrir cette association en compagnie d'un invité, évidemment.
Oui, en effet, Fabien, pour en savoir plus, Mathieu Menghini nous rejoint sur le plateau de Radio Django. Pardon. Bonsoir et bienvenue.
Bonsoir, Amadi.
Bonsoir. Vous êtes historien de l'action culturelle et concepteur de La Marmite. Vous êtes l'initiateur du projet La Marmite. Pouvez-vous nous parler de votre association ?
Oui, volontiers. Vous l'avez dit très justement, on se présente comme une université populaire nomade de la culture ou comme un mouvement culturel, artistique et citoyen. Et peut-être que chacun de ces adjectifs peut nous aider à définir notre action. C'est un mouvement culturel parce qu'on propose un parcours culturel sur 8 à 10 mois, parfois un peu plus, parfois à peine moins, à des associations. Vous avez cité quelques exemples. On pourrait citer encore d'autres, des personnes en situation de polyhandicap et on pourrait citer des jeunes en situation de décrochage scolaire, sociaux ou en insertion professionnelle. On leur propose donc des parcours culturels pluridisciplinaires avec à chaque fois un à deux spectacles art de la scène, à chaque fois une exposition, une projection filmique et puis la rencontre avec un ou une intellectuelle. Ces rencontres sont préparées en amont et suivies de rencontres où on partage ce que l'on a ressenti, compris, son point de vue sur ce que l'on a vécu. Ces rencontres sont préparées par des médiateurs ou des médiatrices culturelles et sociaux et accompagnées par un artiste. Le deuxième adjectif, et l'artiste fait transition, mouvement artistique, signifie qu'on ne propose pas simplement à des personnes qui sont éloignées des institutions officielles de la culture d'y accéder, on propose également de valoriser la créativité, la sensibilité de ces personnes et donc elles travaillent avec un artiste professionnel de disciplines différentes. Ça peut être des chorégraphes, ça peut être des femmes, des hommes de théâtre, ça peut être des plasticiens, des céramistes, des photographes, des cinéastes. On leur propose de réaliser une forme de création partagée. Et c'est là qu'intervient le troisième adjectif, citoyen, un mouvement citoyen, parce que nous avons constaté que dans nos démocraties représentatives, il y a un certain nombre de personnes qui ne sont pas dans les institutions formelles du pouvoir, qui sont très peu représentées dans les médias, et Radio Django fait évidemment exception, peu représentées aussi dans le monde académique. Et donc, il nous apparaissait important de donner une présence dans l'espace public à ces publics. Et c'est la raison pour laquelle cette œuvre est vernie et diffuse le point de vue de personnes que l'on entend rarement, ce que Jacques Rancière, un philosophe français, appelle les sans-parole, ou ce qu'Eri De Luca, un écrivain italien, appelle les sans-écoute. Eh bien, ce qu'ils pensent sur des grandes thématiques. Hein, vous disiez qu'il y a des thématiques sur lesquelles chaque groupe travaille. Chaque groupe a sa thématique. Alors, il y a des thématiques comme l'attention, comme le commerce, comme la peur, comme l'amour, comme la créativité. On a entendu ce que des jeunes en situation de décrochage scolaire pensaient de la peur, ce que des personnes du quart-monde pensaient de l'injustice, ce que des personnes exilées pensaient de la sollicitude, etc. etc. C'est donc une forme de contre-image de la société de la Suisse occidentale par des personnes qui ont rarement voix au chapitre.
Vous avez des thèmes variés, pardon. Comment les choisissez-vous ?
Alors, en l'occurrence, nous ne sommes financés que par l'argent public ou l'argent des institutions culturelles publiques. L'argent public, c'est-à-dire des communes, des municipalités, des cantons. Et puis, au niveau national, nous avons eu la chance d'être reconnus dès la première saison de La Marmite par Pro Helvetia. Et puis, nous avons donc le soutien de théâtres, notamment. Eh bien, nous allons trouver des théâtres en leur demandant s'ils veulent bien être partenaires d'un parcours de La Marmite. Et à partir du moment où ils acquiescent, on se met d'accord sur un spectacle qui va introduire par son thème une série de sorties qu'il nous reste à programmer, à trouver un intellectuel, une intellectuelle sur le thème, un film qui illustre cette thématique et puis une exposition qui va l'illustrer également. Donc on part du spectacle, d'un spectacle que le théâtre trouve intéressant de voir approfondi par des publics peu ordinaires de l'institution. Et c'est donc par ce biais-là, par le choix du spectacle, que la thématique intervient. On n'essaye pas de lier une population à une thématique qui caractériserait son stigmate. Au contraire, on considère un peu comme ce grand poète berbère de l'Antiquité que rien de ce qui est humain ne nous est étranger, et donc que tous les publics, c'est Terence que je voulais citer, que tous les publics peuvent être porteurs de tous les questionnements existentiels et citoyens qui nous viennent.
Pourquoi avoir choisi ce nom, La Marmite ?
Alors, pour les jeunes voix, La Marmite fait référence à un fameux événement intervenu au début du XVIIe siècle où la jeune république genevoise cherchait à préserver sa souveraineté par rapport à des pouvoirs aristocratiques. Donc, il y avait cette idée de la république, du bien commun qui se défend par rapport à ses opposants. Et puis, La Marmite, c'est devenu une arme dans ce combat, l'arme d'une femme qui a ébouillanté un envahisseur. Mais avant tout, La Marmite, c'est l'idée d'un plaisir gustatif et d'un plaisir partagé. Ça, c'est assez important. À la vérité, pourtant, le nom a une troisième origine, et c'est celle-ci qui, plus sérieusement, nous a inspirés. C'est le nom que portaient des restaurants mutualistes à Paris au XIXe siècle, en 1868, et ces restaurants ont été créés par des ouvriers, des artisans, des petits employés qui constataient que Paris tendait à se gentrifier, on n'utilisait pas ce terme à l'époque, mais à devenir de plus en plus cher. Ces artisans devaient se loger à l'extérieur de Paris, se nourrissaient quand ils travaillaient tout le jour et parfois le soir dans le cœur de Paris, mangeaient très cher de très mauvais morceaux. Donc ils ont décidé, toutes et tous, de se cotiser pour se payer un local et que le plus inspiré de toutes et tous devienne le cuistot de chacun. Et il se trouve que dans ces restaurants mutualistes appelés La Marmite, une fois l'estomac sustenté, eh bien on refaisait le monde. On parlait transformation sociale. Et il semblerait que parmi les décrets les plus importants de la Commune de Paris, certains ont été discutés dans ces marmites. Et on raconte aussi que le soir venu, certains artistes, comme des chanteurs d'opéra, on a cet exemple-là dans les archives relatives à La Marmite, certains chanteurs d'opéra venaient chanter gratuitement pour la cause de ces ouvriers et artisans qui leur étaient très chers. Et dernier élément au sujet de cette marmite, l'une des inspiratrices de ces marmites était une ouvrière relieuse. Elle fabriquait des livres. Il s'agit de Nathalie Lemel. Elle venait de Bretagne et elle avait très à cœur que les femmes aient voix au chapitre. Et c'était très moderne pour l'époque. Ça fait un peu lien avec le premier sujet de l'émission de ce jour. Elles avaient très à cœur que les femmes soient l'égale de l'homme ou soient même leur avenir.
Okay. La Marmite propose des échanges passionnants en groupe sur des thèmes avec des écrivains, des philosophes, des metteurs en scène. Comment êtes-vous arrivé à cette formule des groupes guidés par un intervenant ?
Alors, il y a plusieurs intervenants. Il y a plusieurs intervenants, un parcours, et on va aller vers l'enrichissement de ces parcours dès la saison prochaine. Un groupe vivra deux spectacles, une projection filmique, une exposition, la rencontre avec un ou une intellectuelle qui peut effectivement être un philosophe, un chercheur, un savant, mais il retrouve tout au long de son parcours de fait un artiste professionnel et deux médiateurs ou médiatrices culturelles. Donc le groupe est constitué de 7 à 15 personnes parce qu'on a observé, d'après les acquis de la psychodynamique des groupes, qu'en dessous de 7 personnes, le groupe n'est peut-être pas assez stimulant. Et au-delà de 15 personnes, parfois il est tellement important qu'il y a des phénomènes de leadership, que certains n'ont pas l'audace d'être eux-mêmes. Et puis, deuxième élément qui nous paraissait important à respecter pour que les groupes soient vraiment des groupes qui fassent advenir une parole sensible et profonde, une parole réfléchie et délibérée, c'est que ces groupes soient constitués d'usagers ou d'usagères, de participantes et de participants d'une même association, de personnes qui se connaissent ou qui ont un point commun. Donc, on est allé trouver des associations, on leur a proposé ces parcours, et c'est toute une année de stimulation esthétique et intellectuelle que vivent ces parcours. Voilà comment se passe la première année. La deuxième année, on propose aux participants de tous les groupes d'intégrer ce qu'on appelle un chœur. Et à partir de la deuxième année, on mêle les groupes. Et donc là, on n'est plus dans l'homogénéité, mais dans l'hétérogénéité. On fait un pas de plus. Le nombre de sorties proposées est encore plus grand, mais l'accompagnement un peu plus modeste. L'idée, c'est vraiment non pas d'avoir des disciples de la marmite, mais d'avoir des personnes de plus en plus autonomes et qu'elles puissent vivre même très librement des sorties culturelles parce qu'elles auront vaincu des obstacles qui ne sont pas toujours d'abord et uniquement économiques, mais qui sont des obstacles symboliques ou cognitifs.
En moins de 3 ans, vous vous êtes beaucoup développé à Genève et ailleurs en Suisse romande. Comment expliquez-vous ce développement ?
On avait très largement anticipé le développement et son rythme en considérant qu'on allait d'abord créer une marmite genevoise, ensuite s'étendre dans le canton de Vaud, ensuite, troisième année, ajouter le canton de Neuchâtel aux deux précédents. L'année prochaine, on vivra notre 4e saison et on va donc se développer aussi dans le canton du Valais et puis à l'horizon 2023, toucher toute la Suisse occidentale avec la partie francophone du canton de Berne également. Il est possible qu'avant même d'avoir fait le tour de toute la Suisse occidentale, on intègre des marmites étrangères comme à Paris ou à Lisbonne. On a déjà été sollicité. On a même été invité à parler de notre expérience à Marseille, à Liège et dans d'autres endroits. Donc je crois que si la marmite séduit et fait floresse, comme on dit, c'est parce qu'elle ne considère pas simplement ses publics comme devant accéder à la culture. Elle considère qu'ils ont des ressources, qu'ils ont des choses à dire. Et elle ne considère pas non plus uniquement le côté des ressources qui simplement doivent être valorisées, mais elle considère aussi qu'il peut y avoir un accès qu'il n'y avait pas avant à ce qu'on appelle la démocratisation de la culture. Et enfin, elle considère que par le travail de la sensibilité, on peut aussi faire un travail citoyen. Et donc, c'est vraiment cette interaction entre combattre les inégalités culturelles, valoriser les différences culturelles et démocratiser la démocratie. C'est ces 3 buts qui font vraiment de la marmite une action de participation culturelle et citoyenne extrêmement complète et qui nous vaut véritablement le soutien très large des institutions culturelles, mais également des collectivités publiques.
Dans quelle mesure la marmite et le thème lié à la migration sont-ils liés ?
Mais par de multiples biais, mais j'ai peut-être envie de dire que les exilés nous aident à voir autrement notre propre culture. Je finirai sur une illustration. Nous avons travaillé avec des femmes de Camarada qui sont allées voir l'Antigone de Sophocle. La plupart de ces femmes n'étaient jamais entrées dans un théâtre. Et l'histoire d'Antigone, c'est l'histoire d'une guerre civile. La plupart des abonnés de nos scènes romandes ont déjà vu 3, 4, 5 Antigone et ils viennent voir une nouvelle mise en scène, une nouvelle Antigone, une nouvelle manière de jouer leur rôle. Il se trouve que ce non-public n'a pas vécu 4 Antigone avant, mais il a vécu une guerre civile. C'était le cas d'une femme nigériane. Et quand il s'est agi de savoir à qui s'identifiait cette femme du Nigeria, ça n'était pas à la femme courageuse qu'était Antigone, c'était à Créon. Elle disait, parce que l'histoire d'Antigone, c'est celle de valoriser aussi bien le frère qui a combattu Thèbes que le frère qui l'a défendu, elle considérait que la position de Créon, qui disait non, celui qui a attaqué Thèbes ne mérite pas les honneurs, que c'était une position politique plus instruite. Parce qu'elle-même avait vécu au Biafra une guerre civile, et elle disait, si on avait dit de la même manière que celui qui avait attaqué ma cité et qui avait, par exemple, valu à mon père et à mon frère de mourir, de périr, c'est elle qui prenait les armes. Et donc, c'est par ce regard-là, distancié d'un autre pays, qu'on comprend pourquoi Sophocle parle de dilemme tragique quand il parle d'Antigone, ce que ne voient plus les habitués de la culture.
Mais c'est une belle conclusion, on va rester là-dessus. Mathieu Menghini, merci beaucoup de nous avoir parlé ce soir de votre association La Marmite. Je rappelle que vous êtes historien de l'action culturelle et concepteur de cette association La Marmite. Une belle soirée.
Merci, merci Mamadi.
Merci à vous.
Eh bien oui, exactement. Merci également à toi Mamadi, rédacteur à Voix d'Exil, le média d'information destiné à l'expression libre des personnes migrantes en Suisse et ailleurs. Et puis je me permets de vous renvoyer sur le site de l'association www.lamarmite.org pour avoir tous les détails de votre association. Un sujet proposé par Mamadi de Voix d'Exil à retrouver sur voixdexil.ch et on vous met également le lien du podcast sur notre site www.django.fm. Une belle soirée Mamadi.
Belle soirée à toi Fabien. Merci.
À bientôt et on se quitte avec un peu de musique. Adi Lojo. Africain pour clore cette rubrique Rose des Vents, la rubrique Migration ce soir avec Voix d'Exil pour nous parler de l'association La Marmite, un sujet à retrouver sur notre site django.fm. 18h42, voici Cultiver le Zahar.